Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Allez, c'est parti, un 12e magazine d'Instant Sport. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous. Avec nos trois chroniqueurs toujours à l'heure, l'ami Laurent est là. Salut Laurent.
Salut, bonjour à tout le monde.
Alors Laurent, à qui as-tu porté chance ce week-end? Qui es-tu allé voir?
Alors, bonne question. J'ai porté chance à distance au club de l'AFL qui a gagné un coupe Garloser.
Et on va revenir sur cette information. Tu as passé un week-end de studio à voir du sport sur les terrains ou à la télé. Salut Patrick.
Salut, oui, à la télé et sur les terrains. Voilà, un bon week-end de sport et bonjour à toutes et à tous.
Luc est également au plus près des terrains avec son équipe féminine du BCM et une défaite surprise à Saint-Christol-les-Alès. Alors, on avait misé de l'argent avec Laurent sur cette victoire du BCM. Heureusement, on se refait à chaque fois avec l'équipe garçon qui perd. On parie toujours contre elle. Salut Luc.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Et également, on va parler basket avec notre invité du jour qui est la capitaine, il me semble. Tu me diras si je me trompe, Luc, c'est des ça. Féminines du BCM et l'entraîneur des garçons. Céline, et bonjour.
Oui, bonjour.
Avant de parler avec toi qui est invité, on va commencer cette émission par parler de foot. Pourquoi? Parce que ça va aller vite. Suite aux mauvaises conditions météorologiques, la commission Coupe et Championnat de la DDFL décide d'annuler toutes les rencontres de championnat et coupe organisées et programmées ce week-end dans Lozère. Du coup, il faut aller à l'extérieur pour voir du foot en Coupe Gare-Lozère. Et comme l'équipe Fagnon ne jouait pas, et bien certains joueurs de la U n'ont pu venir. Huitième de finale, la FL s'impose à Redressan, club de PHB, 2-0. Un but d'Essomba à la 48e et de Gourma à la 65e. Gourma et Combo qui sont entrés sur le terrain en seconde mi-temps. Laurent, tu as eu des infos sur ce match 2-0, beaucoup de vent.
Oui, en effet, beaucoup de vent ce week-end à Redressan. Mais bon, le principal était la victoire pour passer un tour suivant. Ce qui est chose de faite, donc avec les deux buteurs et surtout Alexandre et Somba Mani qui retrouvent le chemin défilé, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué et donc marqué non plus, donc c'est bon pour la confiance. Et puis bon, voilà, un tour suivant, retour au championnat la semaine prochaine à Argelès, donc il faudra revenir aux choses sérieuses et aller gagner à Argelès.
Voilà Patrick,
tour suivant c'est un quart de finale.
Voilà Patrick, on a vu que du coup l'équipe Fagnon joue pas, on a récupéré quelques pions essentiels de l'équipe 1 qui ont fait la différence.
Oui, mais en Coupe Gare-Lozère, l'équipe 1 de l'AFL est autorisée à jouer. Donc, bon, s'il y avait eu un match en retard en championnat de programmer ce jour-là, il est bien évident que la 2 aurait joué cette Coupe Gare-Lozère. Mais réglementairement, la 1 est tout à fait autorisée à jouer cette Coupe, puisque Aigues-Mortes, d'ailleurs, a été éliminée par Bagnoles. Donc, c'est des équipes qui sont en championnat avec l'AFL.
Il y avait deux prévus aussi, un tour de Coupe Lozère qui ne s'est pas joué finalement puisque tout a été annulé.
Alors non, ça ne s'est pas joué, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne s'est pas joué, ce match de l'AFL 2 contre la STT ne s'est pas joué parce que la STT avait un match en retard en championnat. Un match en retard qui s'est d'ailleurs joué contre Badarou, mais pas sur le stade de Badarou, sur le stade du Cosse d'Auge qui avait été déneigé pour l'occasion par les services techniques de la mairie. Et il y a eu une surprise puisque c'est la STT qui s'est imposé 1-0 contre Badarou qui est pourtant en tête et qui vise la montée en PHB contre la STT qui était plutôt dans la moitié, dans le milieu de tableau et donc qui a pas fait pour le moment un gros début de saison. Et donc il y a eu une énorme surprise avec cette victoire de la STT sur le terrain de Badarou, terrain neutre forcément puisque c'était sur le Cosse d'Auge.
Voilà, et le NL également qui a vu son match être remis, qui est toujours en tête de son championnat avec un match, voire deux matchs de moins que certaines autres équipes. C'est compliqué pour cette division Auvergne de jouer, on le sait, en hiver.
Voilà, et si tu veux finir sur la Coupe Gare-Lozère, donc comme Luc le disait, donc maintenant l'AFL est qualifié pour les quarts de finale. Et on pourrait avoir un gros derby lausérien, puisque Marvejols s'est aussi qualifié en s'imposant à l'extérieur à Sommières. Sommières, bon, qui est avec eux dans le championnat en PHA. Donc, bonne, excellente performance des Marvejolais.
Et Sommières qui n'avait pas perdu à domicile depuis le début de la saison.
Voilà, exactement. Et donc, on pourrait, si le tirage au sort le réserve, on pourrait avoir un quart de finale explosif entre Mende et Marvejols. Ça serait quand même, on peut le dire, un événement pour le football lausérien.
Voilà, Marvejols qui allait s'imposer 2-1. Notre spécialiste Vendant Le Gard, Luc, et les équipes n'ont pas dû s'amuser.
Bah notamment, il y a les interrégionaux de cross qui ont été annulés.
Ils ont fait trois courses.
Ils ont tout arrêté parce qu'il y avait trop de vent. Alors nous, sur Saint-Christol, quand on est descendu, il n'y avait pas énormément de vent. C'était surtout
la
vallée du Rhône, le Gard rhodanien, qui est très venté. Mais ouais, ça soufflait. J'ai eu des échos, ça a pas mal soufflé quand même. Ouais. Je pense que, on le disait la dernière fois, on interdit des matchs parce qu'il y a de la neige, de la pluie, et beaucoup moins quand il y a du vent, alors que je pense que c'est beaucoup plus gênant, le vent est dangereux.
Oui, et surtout, il y a de la neige, mais pas partout. Par exemple, à Mende, je suis désolé, mais les terrains, ils sont jouables actuellement.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est compliqué de...
Mais là, redescendre, c'était la folie, puisque bon, c'est juste à côté de Nîmes, et donc Nîmes, c'est un des secteurs qui a été le plus touché, avec Avignon, donc Aramon, qui est juste à côté d'Avignon, de l'autre côté du Rhône. Donc, c'est bien sûr, c'est les secteurs qui ont été le plus touchés par cette tempête, avec des vents à plus de 140 km/h.
Allez, on passe à un sport où le vent, ben, ça gêne pas vraiment, vu que c'est dans un gymnase, c'est le volley, ça va aller vite aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais revenir un peu sur le foot, là, sur l'AFL qui reprend son match, enfin le championnat, avec une petite surprise ce week-end du côté de Paulhan, qui a perdu en Coupe de la Région. Alors, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que Paulhan est en train de baisser le rythme? A perdu contre une DHR Beaucaire, il me semble.
Tout à fait. Tu fais bien de le signaler. C'est vrai qu'on se réjouit semaine après semaine, bon, de voir Paulhan quand même qui est en difficulté, parce que si Paulhan, bon, voilà, on sait que c'est le grandissime favori pour la montée, et donc si ils étaient au top toutes les semaines, bon, ben, ils seraient déjà loin devant de ce championnat de DH. Fort heureusement, ils sont capables aussi de contre-performance, et donc ce qui permet à l'AFL de toujours croire et être en position pour accéder au CFA2 en fin de saison.
Ils ont eu une expulsée en plus.
Ah, donc ça aurait valu le coup de les jouer maintenant, quoi.
Bah, ouais. Oui, après, c'est un championnat qu'il faut qu'ils perdent, hein, en coupe.
Tout à fait. C'était peut-être pas le coupe de la région n'était peut-être pas leur objectif principal.
C'est bien. Enfin, bon.
Non, mais
le match suivant avec une défaite dans les pattes.
Ouais, non, mais c'est révélateur d'une dynamique.
C'est pas toujours excellent. Je voulais juste aussi signaler que l'équipe 2 de DHR de l'AFL ira jouer ce week-end à 7 contre la réserve de 7 qui est classée 2e. Donc, un déplacement. Très périlleux. Compliqué, périlleux, mais on ne sait jamais, dans le foot, tout peut arriver.
Ok, d'autres infos pour le foot, Laurent, ou c'est bon?
Non, c'est bon.
Au niveau des gardiens, tu peux le signaler, Destin Onkaï est blessé, donc il n'a pas joué ce match de redescend. Son remplaçant, qui était une recrue de l'intersaison, a déjà quitté le club, puisqu'il retourne du côté du Puy. Donc c'est notre ami Van Crayonnès qui jouait à redescend, et donc j'ai croisé Coco Boyer ce week-end, et donc si les deux équipes avaient joué, il parlait même peut-être que Coco Boyer puisse faire son retour dans les buts. Alors je sais pas s'il m'a dit ça sur le ton de la boutade, mais bon, j'en suis pas persuadé. Je pense qu'ils ont quand même envisagé cette possibilité. Donc problème au poste de gardien pour
il aurait fallu qu'il aille faire un tour chez l'ostéopathe quand même.
Voilà.
Il paraît que Laurent était candidat.
Ah ouais. Ah, mais moi, tous les postes, il peut me prendre avant-centre comme gardien.
C'est qui le goal de la 3?
C'est Adrien Malaval. Un bon gardien aussi qui peut venir suppléer sans problème à l'équipe réserve. Il l'a déjà fait.
Allez, ok. On passe au volet. Donc là aussi, ça va aller vite. C'était la Coupe de France. Donc l'aventure s'arrête en Coupe de France pour les seniors, les 20 ans garçons, les 17 filles. Patrick, il me semble que les seniors jouaient contre IAC, c'est ça?
Oui, c'était bon. Au volet, on le répète aussi souvent, il y a des règlements. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment une fédération peut, pour chaque compétition, faire des règlements complètement un peu alambiqués. Donc là, ils avaient décidé de faire les quarts et les demi-finales sur deux sites différents, donc un à Saint-Brieuc et l'autre, je crois que c'était à Strasbourg. Donc Mende était versé dans la poule de Saint-Brieuc. Donc déjà, tu vois, Mende pour monter à Saint-Brieuc, ben voilà, c'est pas la porte à côté. Donc il y avait quatre équipes, Iac, Mérignac, Saint-Brieuc et Mende. Donc Mende devait jouer le quart de finale contre Iac. Donc c'était samedi à 18h. Bon, il n'y a pas eu de match, peut-être le premier set un peu serré, mais après une faillite totale des Mandois, avec des scores 25-14, 25-15, donc bon, là, c'est voilà, donc mauvaise dynamique qui se poursuit, après cette contre-performance contre Mérignac en championnat.
Est-ce que c'était l'équipe habituelle?
Ouais, c'était l'équipe habituelle, et donc voilà, donc ça s'est vite terminé, puisqu'après ils ont joué la troisième place le lendemain contre Mérignac, justement. Bon, c'était un match amical puisqu'il n'y avait qu'un qualifié. Donc dès le samedi soir, tu savais déjà que ton aventure en Coupe de France était terminée. Donc bon, une victoire contre Mérignac 3-7-1 dans un match quasiment sans enjeu, quoi. Voilà.
Ok, ouais, contre Iliac, l'équipe a tenu le premier set et après ça a déroulé. Non, c'est pas, voilà, non,
c'est pas, c'est pas match, voilà, c'est un match vraiment sans référence, voilà, sans. Bon, une contre-performance quand même, bon, tu peux être éliminé, mais bon, là tu joues quand même sur terrain neutre, puisque bon, Iac aussi joué bien sûr à Saint-Brieuc. Bon, on attendait un peu mieux quand même. Moi, je pense que bon, voilà, l'équipe pensait quand même peut-être avoir une finale, justement. Bon, c'était la demi-finale, mais voilà, cette finale pour contre Saint-Brieuc à domicile, c'était ça l'objectif. Et ça s'est arrêté vraiment sur un match bon, pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire contre Iac.
Ok, on va tester si le micro marche. Céline, tu suis les autres sports lausériens?
Très peu.
Tu n'as pas le temps?
Non, j'ai pas le temps entre la vie professionnelle et le basket, tant avec l'équipe masculine que féminine. J'ai très peu le temps de pouvoir suivre les autres sports.
Et ouais, c'est compliqué entre la gestion d'être joueuse, entraîner, les entraînements, s'entraîner. Après, les entraînements de Luc, ça prend du temps?
Ouais, c'est très intense. C'est très très intense. Bah, il nous fait courir vraiment pendant une heure et demie non-stop, et physiquement après c'est dur de s'en remettre, quoi.
Et ouais, et après au match on est fatigué, et on en prend 15 au début de match.
Et voilà, exactement.
Et après, mais on va en reparler, Luc, c'est très bien.
Exactement ça.
Allez, en handball, après le passage de Laurent, l'équipe ne s'arrête plus de gagner, c'était une victoire indispensable, et Mende s'impose contre l'équipe dernière du championnat, mais à l'extérieur, c'est Courpierre, 23-21. Alors du coup, Meylan a fait match nul à domicile et Mende n'est plus qu'à 2 points pour sortir de la zone rouge. Au classement, en ordre inverse, ça donne dernier Courpierre 17 points, Mende 11e 20 points, Meylan 10e 22 points, donc 2 points d'écart. Et par contre, Fontaine a gagné à domicile facilement contre Firmini et a 24 points. C'est juste Fontaine. Cela aurait été mieux si Meylan avait gagné, bien entendu, mais on va pas bouder notre plaisir. C'est une bonne opération pour Mende. Je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole, ouais. Patrick.
Oui, je pense. Je pense que c'est une bonne opération de gagner à l'extérieur.
C'est un match serré.
C'est le seul match qu'ils avaient gagné de la première partie de saison, ce match contre Courpierre. Surtout, ça leur permet d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée, et puis de se remettre dans le coup pour le maintien. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les handballeurs.
Patrick.
Oui, c'est super parce que c'est ta première victoire à l'extérieur de la saison. Bon, elle était attendue depuis un moment déjà. Bon, la semaine dernière, on avait dit que c'était un match vraiment charnière puisque tu te déplaçais chez le dernier. Bon, toi, tu étais avant-dernier. Donc voilà, le scénario était clair. Bon, c'est vrai que si tu faisais une contre-performance, tu hypothéquais grandement tes chances de maintien. Bon, comme tu l'as dit, par contre, bon, voilà, c'est vrai que l'opération aurait pu être meilleure, mais ceux de devant ont aussi fait d'excellents résultats. Tu l'as dit, Fontaine a gagné, Mélan a fait match nul contre des équipes un peu de haut de tableau. Donc, bon, voilà, il faut continuer, mais on sent quand même une dynamique positive, et les matchs qui étaient perdus à la fin, au début de la saison, ben là, cette fois, voilà, la fin de match a souri aux Lausériens, et ils ont pu s'imposer alors qu'ils ont perdu quand même beaucoup de matchs, justement de 1 ou 2 buts ou 3 buts d'écart dans les dernières minutes, et là cette fois ça a été l'inverse.
Voilà, bon début de match, un 4-1 à la 7ème, 4-4, puis 8-4 pour Mende, 11-11 à la mi-temps, et après les Mendois sont restés avec 2 buts d'avance tout le long de la seconde mi-temps, donc ils ont bien tenu pour terminer 23-21. C'est il y en a que 2 qui descendent normalement.
Normalement,
oui, après on parle pas des règlements,
il
peut y en avoir 3
suivant les descentes des divisions supérieures.
Alors, c'est toujours un peu, bah, généralement ça c'est très très souvent en fin de championnat.
De toute façon, il faudra cravacher jusqu'à la fin.
Oui, voilà.
Il faut terminer 11e, quoi qu'il en soit, et voir. Parce qu'à mon avis, la 9e place, il faut terminer 10e, pardon. La 9e place va être compliquée. Il y a 4 points d'écart avec Fontaine.
Il y a 4 points.
Tu pourras revenir. Ouais.
C'est quoi, 3 points la victoire, c'est quoi?
Ouais, 3 points, 2 points le nul et 1 point la défaite.
Non, c'est jouable. Si, ils enchaînent.
Surtout que Fontaine, vu qu'ils sont déjà allés à Fontaine, il faudra certainement les recevoir. Donc. On peut espérer une victoire et grappiller des points.
Voilà. Là, samedi, tu as un match important à domicile, à 20h30 à La Vernède, contre Villeurbanne. Bon, Villeurbanne qui est dans les 5 premiers, donc là aussi, tu as un gros match. Il faudra faire le même match contre Bourgoin.
On va annoncer les matchs pour que les supporters viennent. C'est important qu'il y ait du monde dans tous les sports en Lozère. Les féminines s'imposent à Lunel 25-19. Même problème comme Bellegarde et le MUC devant elles au classement ont gagné. Alors rien ne change. Au classement, le MUC est première avec 40 points, Bellegarde deuxième, 35 points, Mende troisième, 33 points. Alors Laurent, toi qui as toujours des infos, comment le match s'est déroulé?
Alors du coup, j'ai vu Marie vendredi qui était à la limite d'aller voir un psychologue parce qu'elle ne savait pas comment allait se dérouler cette rencontre. Elles étaient que 6 joueuses, pas de gardien, neuf. Et donc
gardien, c'est compliqué ça.
Du coup, elles sont parties un peu comme ça dans l'inconnu, ce match qui était quand même important. Et donc finalement, c'est une joueuse blessée qui est passée en goal, c'est Morgane. Et elles ont joué, puis elles ont bien attaqué le match. Et avec de la solidarité, elles ont gagné 25-19. Sachant qu'à la 40e minute, Marie s'est blessée, s'est fait une entorse de la cheville. Mais au dire de ses coéquipières, elle a été meilleure avec une...
C'est comme Luc, quand il est blessé, il est meilleur.
Elle a été meilleure.
Je joue pas.
Elle était meilleure avec une entorse. Et donc voilà, donc c'est une petite boutade. Donc généralement, je lui demande une ou deux joueuses qui sont sorties du lot. Ben là, cette fois-ci, elle m'a donné les 7. Donc c'est Sandrine, Muriel, Morgane, Alexia, Tiffaine, Carole et Marie, bien sûr. Et puis félicitations au coach Balou qui a su les motiver.
C'est bien, ça sent goal, c'est énorme, quoi. Réussir à gagner avec une joueuse de champ qui va en goal. Ça peut donner des idées, toi qui es en manque d'effectifs chez les garçons, Céline.
Il n'y a pas de goal, déjà, c'est un avantage.
Il n'y a pas de goal au basket?
Non. Tu connais pas le basket.
Il y a un filet, mais il n'y a pas de goal.
Ouais. On peut mettre un goal sous le panier, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de sports lozériens où il y a quand même des problèmes d'effectifs. C'est compliqué à gérer.
Ouais. Bah, il faut se réadapter à chaque entraînement, à chaque rencontre.
Toi, tu as des problèmes.
Je peux comprendre que Marie ait eu besoin d'aller voir un psychologue parce que c'est assez tortueux à des moments.
Toi, justement, tu as des problèmes comme ça où tu n'as pas de pivot sur un match. Pardon, excusez-moi, j'ai pas été à mon téléphone, c'est pas beau.
Bravo.
Où tu n'as pas de pivot sur un match et tu dois.
Ça m'arrive, parce qu'on essaye de partir quand même avec un minimum d'intérieur, d'ailier ou de meneur, et ça m'arrive d'avoir des rencontres où je suis en faillite d'intérieur, donc obligé de faire passer des ailiers à l'intérieur ou inversement.
Plus embêtant des intérieurs
à la main, c'est un peu plus compliqué.
Du coup, tu adaptes ta tactique, tu n'as pas de grand dans la raquette, donc tu vas plutôt tester les tirs extérieurs.
Voilà, je vais adapter en fonction de l'effectif qui sera présent. Donc c'est une constante adaptation du jeu. Quoi.
Ouais, après, ce qui fait aussi qu'on a la plupart du temps des joueurs qui sont très polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer chez les garçons comme chez les filles, qui peuvent jouer à l'intérieur comme à l'aile, comme à la main.
On ne mettra pas Julien de 2 mètres à la main.
On ne mettra pas, mais il y a pas mal de... Il faut jongler à chaque fois.
Et justement, on va parler de basket, à moins que Laurent ait des infos complémentaires sur les écoles de jeunes du hand.
Non, c'était repos, là c'est vacances scolaires. Donc
les vacances scolaires, c'est vrai.
Il n'y a pas de match.
Ok, alors on passe au basket donc avec notre invité du jour, on le rappelle, capitaine de l'équipe féminine, entraîneur de l'équipe masculine. Okay. Céline qui est avec nous, on commence par les filles. Luc, une défaite à Saint-Christol-les-Alès 50-44, mais qu'est-ce qui s'est passé, coach?
On a mis du temps à démarrer, énormément de temps à démarrer.
Voilà, une entame de moins 15 points, vous perdez moins 15 points, c'est vous ça. Répondez par un 12-0, donc moi je ne comprends plus, là, Céline, c'est quoi ça? On prend 15 points, après on en marque 12.
Non, parle à l'entraîneur, c'est
alors
lui
l'entraîneur,
le
dis-moi.
Non, c'est-à-dire qu'elles ont fini par digérer les 2 heures de route.
Les 8 entraînements.
Les 8 entraînements.
Les 15 heures de travail
C'est ça. Non, elles ont mis beaucoup de temps à se mettre dans le rythme parce que c'est une équipe qui aussi joue dans un faux rythme à l'équipe de Saint-Christol. Donc c'était compliqué pour se mettre dedans.
Oui. Enfin, pour notre défense aussi, on n'a pas l'habitude de jouer le dimanche après-midi.
C'est vrai aussi.
Et on est plus habitué à jouer en fin d'après-midi ou tout début de soirée le samedi soir. Donc là, un déplacement en jouant à 15 heures, ça fait un départ à 11h30 de chez soi. Ouais, on n'a pas le même réveil du corps, etc. Quoi.
Ouais, manger, enfin voilà, s'habituer pour manger plus tôt. Enfin bref.
Donc on arrivait, on avait quand même les jambes physiques. Ouais.
Surtout quand on vous connaît, on sait que vous faites la fête la veille au soir.
Oui,
donc,
tout à fait. On est sorti 15 fois en boîte.
Vous êtes toutes couchées à 10h, j'ai fait le tour là.
T'es le Giroud de
Lozère. Le Giroud fait le tour des boîtes de nuit, demande, et ça va vite finalement.
Tiens-moi une résultat que Giroud.
Il a commencé petit, il a commencé en DH, Giroud.
C'est vrai.
Non, après.
Après, vous revenez au score, et tout se joue en fin de match finalement.
Ouais, alors après il y a eu un garage qui se ferme, hein, c'est Batman.
On héberge Batman, des fois il sort.
Et puis j'ai pas l'habitude d'en parler, mais là pour le coup il y a eu un élément décisif qui a été la paire arbitrale, et ça y est, Batman est sorti. Il y a eu la paire arbitrale qui a été, qui pour moi a été complètement en notre défaveur et qui a sifflé à peu près rien en deuxième mi-temps en faveur de Mende. Là pour le coup c'était même les adversaires l'ont reconnu. Pour le coup c'est compliqué de gagner dans des conditions comme ça.
Patrick,
est-ce que tu as pris une technique?
Non, moi j'ai pas
moi
pris
oui.
une technique.
Moi oui.
J'ai failli, mais il venait de la mettre à Céline.
De la mettre à moi d'abord.
Il venait de la mettre à Céline. Tu
as réussi à te contenir quand même, ça va.
C'est un peu compliqué.
C'est un peu dans le basket, c'est un peu comme au foot, on arrive à mettre la pression facilement.
Aux arbitres. Même plus au basket, je pense.
Des joueurs qui mettent la pression.
C'est vrai qu'au basket, bon, les arbitres peuvent faire basculer le match. C'est vrai dans tous les sports, c'est le cas aussi. Mais j'ai l'impression quand même qu'au basket, c'est assez facile si tu veux avantager une équipe. Ça me paraît assez simple.
Ouais. Oui, je pense que sincèrement, ils nous ont pris en grippe.
Qu'en prenant des techniques, en râlant tout le temps, tu te fais prendre en grippe aussi.
Ça devait être un des premiers matchs où je ne parlais pas une seule fois.
Pour une fois, elle a parlé, elle a une technique parce que.
Elle a lâché le ballon.
Mais que la fois d'avant, elle l'avait jeté contre le mur, c'était pas bien déjà. Moi, j'ai jeté mon stylo violemment au sol.
Aïe, qui a eu mal.
Il y a des hooligans aussi, tu as vu. Il n'y a pas qu'au foot.
Moi, j'ai peut-être une autre explication, coach. Au niveau des points marqués par les filles, il n'y a personne qui n'émerge au-delà de 8 points, à part Céline qui a 21 points.
Non, mais justement, c'est la question qu'on pourrait poser à Céline, parce que c'est vrai que c'est rare qu'elle fasse un match en dessous de 20 points. Donc bon, les équipes adverses,
on suit les joueuses, plusieurs joueuses qui sont.
Bon, donc c'est rare qu'elle fasse un match à moins de 20 points. Donc bon, les équipes adverses, bien sûr, forcément, sont au courant de ça. Donc j'aimerais savoir, moi, si les équipes adverses justement s'adaptent et font quand même un traitement spécial envers toi, parce que bon, moi, si j'étais coach de l'équipe adverse, c'est bien évident que je te mettrais.
Ça va nous casser les chevilles.
Je ferais quand même un petit contrat sur toi avant le début du match.
Ouais, et la pivot aussi marque beaucoup de points.
Ça enlève quand même un fort potentiel offensif à ton équipe. Donc est-ce que tu subis ce traitement un peu spécial chaque week-end,
enfin pas chaque week-end, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir il y a une défense de zone de l'équipe adverse. Donc ils sont une défense pas homme à homme, et moi j'ai le droit à une défense stricte sur
D'accord.
La pivot aussi,
c'est ce qui est arrivé hier. Dernier carton,
c'est ce qui se passe régulièrement quand
oui,
y a
c'est une boîte, c'est ce qui se passe
à l'équipe adverse, la charge quoi.
Passe souvent au hand, c'est ce qui après soit ce qui se passe là en l'occurrence, c'est qu'il y a vraiment une fille qui est sur Céline en permanence.
C'est-à-dire que si elle va aux toilettes,
elle
est sacrifiée quoi.
Elle n'est pas sacrifiée parce que du coup elle défend, elle est là pour défendre aussi. Mais
ça peut créer des brèches si t'as des prises à deux, ça peut créer des brèches. Mais il faut encore que les autres marquent des points parce que
c'est ça.
Et un mot sur la pivot, Luc, je reviens dessus parce qu'on a vu des très bons matchs de ta pivot les derniers matchs. Et là,
comment elle s'appelle?
Là, elle jouait pas.
Ah, mais c'est pour ça. Déjà, ça vous enlève.
Elle était absente, Aurélie.
D'accord. Et oui, tu te rappelles, elle avait marqué plus de 20 points.
Ouais, mais alors, c'est un peu différent parce que c'est plus compliqué de faire une. Ah, y a pas de Batman qui rentre dans l'intervention. C'est plus compliqué de faire une boîte sur une intérieure, en fait. Ça se fait beaucoup moins. Alors que sur une menace, la menace, c'est elle qui lance le jeu. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui est tout le temps sur Céline pour lui éviter de lancer le jeu, ça veut dire que le jeu d'équipe en est aussi plus difficile. Donc c'est fréquemment qu'il y a une boîte ou quelque chose sur la meneuse et en général sur Céline.
Ouais, on va continuer à parler de boîte. Je vous suis un peu sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression qu'il y a une superbe ambiance dans votre équipe. Ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble.
Il y a un noyau qui commence à se créer. Et c'est vrai qu'on se faisait la remarque tout à l'heure avec Luc. On commence de petit à petit à vraiment devenir une bande de copines, avant même d'être une bande de joueuses. Et ça commence à se ressentir sur le terrain, ça se ressent à l'extérieur. Et c'est vraiment plus plaisant de... C'est vraiment plaisant de fonctionner comme ça. Et du coup, les défaites comme hier, qui sont quand même très frustrantes, parce qu'on avait le potentiel pour gagner, le fait qu'on soit des copines à côté, on arrive à relativiser et pas baisser les bras. Mmh. Pas baisser les bras, alors que si c'était un peu plus, on vient, on pose son sac, on s'entraîne, on s'en va, on pourrait avoir la tentation de se dire, le match d'après, j'y vais pas. Ou...
C'est vrai qu'en suivant cette émission depuis le début de l'année, on allait souvent au basket féminin pour trouver des victoires. On voyait beaucoup le hand qui perdait, etc. On venait souvent vers vous. Là, donc, vous êtes en play-down, ça s'est joué à peu de choses. L'an dernier, vous étiez en play-off, il me semble.
Non, on était en play-down aussi. On avait raté les play-offs sur un match.
Ah oui, c'est un peu comme cette année.
Et vous étiez maintenu sur le dernier match.
Et on s'était maintenu sur le dernier match.
D'accord. Donc là, c'est au classement. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même. Là, t'as perdu, c'est déjà ça. Au classement, Uzès 8 points, Kono 7 points, Vergès 6 points, Mende 5 points, Saint-Christol et Zales 4, mais qui a apparemment un match en moins, contre Latte qui a 3 points. Donc pour l'instant, vous êtes sauvés.
Pour l'instant, oui.
Les prochains matchs qu'il va falloir à tout prix gagner, c'est quoi ?
Il y a quoi ? Le prochain match, c'est Kono. Normalement, on a un match le.
Non, c'est Ludo.
C'est bon de s'appeler Kono.
C'est très particulier comme nom de ville à tous les matchs.
C'est pas une insulte.
C'est dans le Gard encore, ça.
Je me souviens que les dernières confrontations contre Kono avaient été un peu
physique.
Un peu physique, ouais. Un peu,
très physique.
Un peu tendu. Donc,
j'ai
appris
une technique aussi.
Oui,
C'est pas beau, ça.
On sait un peu à quoi ça ressemble. Il y a un match contre Montpellier qui est calé normalement le 28 février à Latte. Mais en même temps, ils ont calé un match contre Saint-Christol le 28 février à Latte. Alors, je sais pas comment ils vont faire, si on va faire des trucs à trois équipes,
c'est ce qui se fait au volet, donc.
Peut-être ce qui va se faire.
Luc, Laurent, pardon. Non,
quand vous parlez de j'ai pris une technique, ça veut dire quoi de ceux qui connaissent
contestation.
Une faute technique. Une faute technique, c'est.
Jette le ballon contre le mur.
C'est contestation.
Il y a l'arbitre qui est nul.
Jeter le ballon, mauvais.
C'est mauvais comportement.
Voilà.
Ouais, c'est mauvais comportement. Alors, ça pour conséquence que ta joueuse ou ton coach prend une faute technique. Au bout de deux fautes techniques, tu es exclu du terrain. Voilà.
Sur la même rencontre.
Mais remplacé.
Oui,
mais remplacé.
Mais toi, tu peux plus rentrer. Il n'y a pas d'expulsion définie. Enfin, il n'y a pas d'infériorité numérique.
Tu joues 5 contre 3 à la fin.
Si tu n'as plus assez de joueurs.
Si
tu n'as plus assez de joueurs. Mais par contre, ça a pour conséquence. Donc, c'est un lancer franc.
Et
balle à l'adversaire.
Un lancer franc à chaque faute technique.
Et balle à l'adversaire.
Quand tu as la faute technique, tu as le droit à un lancer franc plus la possession de balle.
Donc, ça peut te faire un plus 3 sur une action.
Ou un plus 4.
Ou un plus 4, c'est un 3 points.
Sachant que ça s'accumule aussi sur les fautes globales de l'équipe.
Exactement.
Quand tu atteins un certain nombre de fautes,
5, en l'occurrence.
Dès que tu fais d'autres fautes, l'équipe adverse a des lancers francs automatiquement. Donc
quand tu fais 5 fautes dans un carton, après tu as des lancers francs.
Ouais, la faute
technique. Ça serait bien au foot.
Mais la faute technique existe au hand aussi.
Oui. Tu peux avoir les 2 fois 2 minutes, j'ai appris ça dernièrement.
Par exemple, au hand, ils ont cette règle qui fait que quand tu ne rentres pas le ballon, dès que c'est sifflé, tu dois poser le ballon et partir. S'ils ne le rentrent pas, ils prennent 2 minutes.
2 minutes.
C'est une sorte de technique.
Par contre, il reste en infériorité numérique.
Mais il reste
sur le terrain.
Passé au Gold Bourgoin la semaine dernière contre le MGC, qui a récupéré le ballon, il ne l'a pas lâché. Ouais. Donc il s'est pris 2 minutes. Et puis en sortant, il a dit un petit mot d'amour à l'arbitre. Et plaf, donc 2 fois 2. Merci, au revoir.
4 minutes, c'est sympa.
4 minutes, c'est sympa.
Allez, mais en tout cas, on vous suit. Sachez-le, les féminines, on en parle toutes les semaines et on espère que vous allez vous maintenir.
Merci beaucoup.
Y a pas
on va
de
essayer,
raison.
On va tout faire pour.
Elles ont intérêt, ouais.
Alors,
moi, j'avais une question à Céline, puisqu'elle est là aujourd'hui.
C'était dur de pouvoir trouver le temps, d'ailleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Comment tu t'organises, donc, du coup, puisque tu es joueuse de l'équipe féminine, coachée par notre ami Luc, et tu es coach de l'équipe masculine avec Luc comme joueur aussi. Sans parler de cette relation avec Luc, comment tu arrives comment tu arrives à te départager dans toutes ces fonctions, quoi, à pas mélanger les deux.
Non, mais une fois tu donnes des ordres et l'autre fois c'est lui qui te donne des ordres.
Voilà. Comment
c'est pas banal,
c'est pas naturel.
Moi je vais répondre à la place de Céline, mais il y en a une qui marque 20 points et l'autre qui en marque 0, donc tu vois, la relation est plus facile, quoi.
Je te remercie, ça m'évite d'aborder le sujet.
Non, mais sérieusement, comment ça se passe?
Non,
il y a une joueuse dominante et un joueur dominé.
Voilà, c'est un peu ça. Non, après on a une relation très très respectueuse, que ce soit dans le sport qu'en dehors avec Luc, donc on arrive à trouver chacun sa place de son côté. Après, Luc a fait le choix cette saison d'être joueur, mais prioritairement d'être entraîneur. Et moi, de mon côté, j'ai fait le choix d'être entraîneur, mais prioritairement d'être joueuse. Donc du coup, on arrive à se compléter et s'entendre justement là-dessus pour allier les deux.
Après, si je peux me permettre, faut quand même être honnête sur un point, c'est que mon temps de jeu et mes performances sont quand même loin d'être ceux de Céline. Moi, je suis pas capitaine et joueur majeur de l'équipe des garçons.
Est-ce que ce serait pas plus simple que Céline entraîne les filles que toi d'entraîner les garçons? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez refusé? Est-ce que
c'est
très compliqué.
J'ai fait deux mois.
C'est très compliqué d'être entraîneur joueur et notamment chez les filles. C'était compliqué, donc non, il vaut mieux faire ça.
Allez, Laurent.
Ouais, encore une question pour toi. Donc, tu es coach des garçons. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est difficile, en étant une nana, de coacher des mecs? Est-ce que tu aurais des anecdotes? Est-ce que tu arrives à te faire respecter? Est-ce que ce sont des gros boulets? Enfin, voilà, dis-nous en plus.
Non, alors après, sans aucune prétention, il y a énormément de respect. Il y a énormément de respect. J'ai pas eu. Non, je ne me permettrai pas, et non, loin de là. Mais effectivement, mon parcours sportif et mon expérience de basket m'a permis d'avoir une certaine, je ne sais plus le mot,
aura.
Légitimité, voilà, merci.
On va rappeler
légitimité auprès de l'équipe masculine, et du coup une forme de respect rien que par rapport à mon expérience de jeu. Et puis, on peut être un bout de femme d'1m65 et entraîner des mecs de 2 mètres. Si on leur demande de faire 15 pompes, ils font 15 pompes. C'est pas un souci.
On va rappeler que tu as joué en National 3 quand même.
Ouais.
Voilà.
Sur Paris, région parisienne.
Laurent, tu me déçois. Je pensais que tu allais demander à Céline si Luc avait des chouchous dans l'équipe.
Oui, non. Est-ce que tu as des chouchous, Luc? Tu peux en dire, là.
J'ai pas de chouchous. Non, j'ai pas de chouchous. J'ai un 5 majeur.
C'est très bien.
C'est déjà bien.
J'ai des joueuses dont je sais peu près, quand elles sont là, qui je mettrais dans le 5 majeur, et c'est bien parce qu'il faut en avoir un. Oui. Donc, c'est peut-être des fois la difficulté des garçons de ne pas avoir
un 5 fixe.
Mmh. Et non, j'ai pas de chouchou. Pas de chouchou.
Allez,
je pensais que c'était moi.
Ouais. Non, je peux pas le dire. Il y a des gens qui écoutent.
D'accord.
Allez, on arrête d'embêter Luc. On va parler des garçons. Alors, c'était le match de la peur contre les PTT, le match à gagner, le match de l'espoir. Et non, une nouvelle fois, défaite 53-47. Alors, sur ce match, Céline, une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps catastrophique.
Surtout un troisième carton.
Un troisième carton.
Surtout un troisième carton où les garçons sont revenus du vestiaire. Ils avaient la tête dans le sac. Hein. C'était. Ils perdent de 11 points le troisième carton.
Ah oui.
Donc ils étaient à plus 8 à la mi-temps. Donc à la fin du troisième, ils étaient déjà derrière leurs adversaires. Donc moi, je n'étais pas sur place, même si j'ai suivi la rencontre à distance. Il y a eu de l'envie collective. Il y a eu de l'envie de bien faire. Mais ce troisième carton, les joueurs ont commencé à perdre la notion de collectif, à tenter des shoots improbables et n'y croyant pas, n'allant même pas au rebond. Donc ils ont commencé à se désolidariser sur l'attaque, et malgré les replis défensifs et une défense relativement stable, moralement, ils ont pris un coup derrière la tête, et c'est leur défaut, c'est notre défaut depuis le début de la saison. Quoi.
Une saison plus que difficile.
Très difficile, ouais. Très très difficile.
Comment on peut expliquer cette saison? Alors, on en parlait avec Luc au début, qui nous a dit bon, ils ont appris au dernier moment qu'ils seraient repêchés, la préparation compliquée, on laisse tomber le championnat, mais vous verrez pour les play-downs, ça va revenir, et non, ça vient pas.
Ça vient pas parce que il y a plusieurs explications. Après, le contexte, c'est qu'à chaque entraînement, donc il y a 2 entraînements par semaine, j'ai des joueurs qui sont différents, ce sont pas les mêmes qui sont présents à un entraînement ni à l'autre, et c'est pas encore les mêmes joueurs qui sont là au match qui suit. Donc pour créer une cohésion avec un total de joueurs, je crois, de 18 à 19, sachant qu'il y en a 2 qui viennent d'arriver il y a une semaine aussi, en plus, c'est très très compliqué avec des joueurs qui ne sont pas présents à chaque fois. Donc pour des raisons légitimes, respectueuses, professionnelles, familiales, après d'autres qui sont peut-être un peu moins légitimes, mais bon, après, on est en équipe pour pouvoir juger. Mais c'est très compliqué de pouvoir créer une dynamique dans cette condition-là. Et effectivement, l'accumulation de défaites aussi peut avoir une influence sur le moral des troupes.
Finalement, est-ce que c'est bien d'avoir été repêché?
Alors moi, quand j'ai repris l'équipe il y a 3 ans, C'était le plus bas des niveaux départemental. On a eu une victoire sur la saison. C'était une victoire par forfait, je crois. Il me semble, en plus.
Ouais, je crois qu'on a
fait une victoire par forfait. Ouais. La seconde année, 14 matchs à peu près, 7 victoires, 7 défaites. Et la troisième année, deux défaites contre les leaders. Donc,
Oui, il y avait une belle saison.
Il y a une progression malgré tout. Et là, c'est un nouveau championnat, c'est un nouveau fonctionnement. C'est pas le même corps, la même façon d'arbitrer aussi des hommes en gris. Donc, il y a beaucoup d'adaptations à faire. Il y en a qui ne connaissaient pas du tout le niveau régional, donc qui ont besoin de s'adapter, qui ont besoin de temps pour assimiler aussi les nouveaux fonctionnements.
Ouais, et puis je crois aussi...
Les règles ont changé au basket.
Oui, il y a des évolutions de règles, ouais, assez régulières.
Ouais, puis je crois aussi qu'il y a certains joueurs qui se font un monde de la région aussi, du championnat régional, et qui sont un peu empruntés. Alors que c'est dommage, parce que je pense qu'on a les capacités de faire, notamment le dernier match à domicile contre Alès, qu'on avait largement les moyens de gagner.
Grosse déception.
Ouais, puis il y a eu le match à la Croix d'Argent aussi, où on n'est pas passé très loin, le dernier match de la phase régulière, où on passe pas très loin. Il manque pas grand-chose.
Mais paradoxalement, justement, quand tu fais exemple de ce dernier match à domicile, j'avais 10 joueurs sur la feuille de marque. Donc le nom maximum, et les noms convoqués pour le match étaient dans les tribunes. Donc il y a quand même les mecs sont quand même investis, quoi. Ils viennent voir les matchs, même s'ils sont pas convoqués, ils sont présents aux entraînements. Donc c'est un peu le paradoxe. Et d'un côté on sent l'envie, et de l'autre côté on n'arrive pas à passer le pas de allez, on est capable de et de le faire.
Alors là l'équipe a 3 points, il me semble. Un point par défaite, donc 3 matchs, on peut se maintenir ou...
Oui, tout est possible. Hein, de toute façon, ça dépendra de nos résultats à nous et des résultats des autres équipes. Hein, donc,
on n'a pas fini les matchs aller encore. Hein.
Voilà, il en reste encore 2 matchs sur la phase aller, dont un samedi prochain contre les avant-derniers.
Amende.
À 21h.
C'est où, à quelle heure?
21h au Collège Saint-Privat.
Contre Lunel.
Samedi
soir. Donc venez nombreux pour les encourager.
Viendez.
Viendez les gens.
par contre, si je peux me permettre, il y a un truc dont on n'a pas parlé, Céline, et pour moi est quand même quelque chose qui est assez remarquable. C'est qu'elle joue entre 30 et 40 minutes par match. Donc physiquement, vous n'avez pas vu, mais elle a un jeu qui est assez physique, et de par le fait qu'elle soit souvent prise en strict. Et que voilà, elle est physiquement relativement bougée, et que derrière réussir à enchaîner, à coacher, où là c'est aussi physique, enchaîner le jeu avec des filles et coacher les garçons, c'est quelque chose de très compliqué, et elle réussit très bien, et ça par contre c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez.
Alors le durée d'un match c'est combien? C'est
4x10.
4x10.
Alors j'ai une anecdote sur ça avant que vous arriviez, les garçons, parce que Céline a dit à Luc: j'ai mal aux pieds, regarde, avec des bleus partout. La réponse de Luc: mets des pansements.
Voilà.
Voilà où on en est. Allez, merci beaucoup Céline, en tout cas, d'être venue parler du
BCM.
Avec grand plaisir. C'est important de parler du basket, qui est un beau club. De toute façon, on te garde avec nous. Hein, on va parler.
C'est un jeune club aussi, je crois.
Et c'est un jeune club aussi.
20 ans.
20 ans.
Ouais, mais ça fait longtemps qu'ils sont jeunes.
Voilà. Non, on essaie de se faire connaître de plus en plus.
Ouais.
Hein.
Non, mais c'est bien. Ça va venir.
On espère.
Et ça fait longtemps que tu n'as plus 20 ans aussi, Laurent. Si je me trompe pas.
Là, petit, ça va pas revenir.
C'est petit.
Ça, c'est moche.
Allez, une petite pause musicale et on va parler de l'actualité
nationale
et internationale. Bien entendu, c'est Laurent qui a choisi de la musique brésilienne cette fois. Ouh. Je me tromperai pas.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando
É mudarem o meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Oh, oh, oh. Falei, ela não quis ouvir. Não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Não, não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego.
Allez, c'est reparti, l'instant sport, seconde partie, on va parler d'actualité nationale, internationale, on va commencer par la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors avec Luc, on avait raison sur le pronostic, bravo Luc.
Ouais, on avait dit Côte d'Ivoire.
On avait dit Côte d'Ivoire, championne au tir au but devant le Ghana, 9 tirs au but à 8, après deux finales perdues au tir au but en 2006 et 2012, donc la Côte d'Ivoire a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations.
La deuxième après une finale en 92, gagnée au tir au but contre le Ghana.
Et ouais, c'est pareil. Et deuxième titre pour Renard avec deux équipes différentes, s'il entre dans l'histoire, c'est à noter également. En fait, il fallait voir que les pénaux, Patrick.
Ah oui, oui, là, bon, j'ai pas regardé le match, mais d'après tous les commentaires, hein, il valait mieux arriver au moment des pénalties parce que le match et la prolongation, bon, il y avait vraiment rien d'intéressant. Deux équipes qui justement ont fermé à double tour ce match et donc peu d'intérêt pour cette finale. Et bon, en général, quand même, cette Coupe d'Afrique, il faut dire, il n'y a pas eu de grosses équipes, il n'y a pas eu de gros matchs. Il y a eu plus d'incidents presque dans les tribunes ou d'organisation que de gros matchs.
Après, Laurent, avec une équipe qui a des Marseillais, faire match nul, voire des défaites, c'est un peu normal.
Mmh. Oui, c'est vrai, mais je voulais surtout avoir votre avis.
Il dit c'est vrai, hein.
Sur Hervé Renard, qui est a priori est le Zorro de... des équipes africaines, puisque...
Il a la baraka.
En France, il a rien fait, ou pratiquement rien fait. Et puis
il a failli sauver Sochaux, qui était
ouais, en ouais, ouais.
Il a failli, mais moi aussi, j'ai failli.
Sochaux.
Et donc, c'est bizarre qu'un entraîneur peu connu en France arrive à avoir une vraie statue en Afrique.
Il a une super carrière en Afrique. Oui, hein,
c'est un management différent, Laurent, hein, en Afrique.
Différent
Oui, oui, c'est un match différent, pardon, en Afrique que dans l'Occident. Que dans,
ouais,
dans
et en quoi alors, c'est différent bah, parce déjà, qu'ils dansent déjà, la samba quand ils arrivent
non,
au stade.
Non, mais déjà, c'est des sélections. Donc je pense qu'il y a une différence entre gérer des clubs et gérer des sélections. Et puis c'est quelqu'un qui a quand même allé, il a quand même gagné une Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie. Et c'est quand même un exploit parce que la Zambie, c'est quand même pas le meilleur pays africain du football.
Et c'est différent, hein, les rendez-vous, t'as pas tous les joueurs, ça se passe différemment, Patrick.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est vraiment surprenant sur le continent africain, et en particulier à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que je crois de mémoire que sur l'ensemble des sélections, il y en a uniquement deux ou trois. Ouais, je crois qu'il y a même que deux qui sont entraînés par des Africains. Donc tout le reste, c'est des, entre guillemets, des Blancs. Voilà, donc beaucoup de Français, mais aussi d'autres nationalités. Il y a même un Israélien qui était à Chelsea avant,
qui était
entraîneur. Donc mais, voilà, c'est quand même... C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant.
Il y a deux Africains, dont un qui a fait toute sa formation et une partie de sa carrière en France. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment qu'un seul entraîneur issu du continent africain.
Ça, c'est dommage.
Ouais. C'est dommage, à mon avis. C'est quelque chose... Même c'est presque, moi, je dirais, un peu... C'est dramatique, quoi. Enfin, moi, le football, il appartient vraiment... au continent, au pays sur lequel tu joues, c'est vrai. Bon, il peut y en avoir un ou deux à la marge, un pourcentage, mais cette énorme majorité, cette écrasante majorité, je trouve ça dommage vraiment pour les pays africains.
C'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en alternance avec la CAN et qui regroupe, là, pour le coup, que des équipes nationales dont les joueurs jouent en Afrique uniquement.
Ouais, moi, ce que je relevais, c'est que, en fait, tous ces entraîneurs français ou Blanbec, ont eu aucun résultat à part Christian Gourcuff, n'ont jamais rien fait en France, quoi, finalement, à l'IGRS.
Non, mais c'est vrai que tu as raison. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui connaissent des échecs en France et personne ne veut, il faut le dire. Et après, ils sont recyclés justement dans des sélections nationales africaines.
En même temps.
Donc, c'est ça aussi qui est hallucinant et qui est encore plus dramatique pour ces pays africains.
Allez, un mot rapide, tu en parlais. Si je vous dérange, vous le dites, les gars.
Oui, pardon.
Non. Voilà, merci. Un mot rapide sur les incidents qui ont émaillé la demi-finale perdue par le pays organisateur. Guinée équatoriale. Alors, pour rappel, des jets de projectiles incessants sur la bite et sur l'arbitre et les joueurs ghanéens.
Excusez-moi de cela. C'est collector. Hein.
Durant le match, ont entraîné une interruption.
On fait
un bêtisier à Noël, donc c'est bien. On le récupérera. Durant le match, ont entraîné une interruption de près d'une demi-heure à 8 minutes de la fin de la rencontre, Patrick.
Voilà, et après, ça
on
passe.
On espérait que ça se passe
non,
pas.
Mais, et... Non, mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est que ça passe après une commission de discipline. Et il n'y a aucune conséquence, il n'y a aucune sanction. Bon, c'est vrai que la Guinée équatoriale a sauvé la CAN en organisant au déboté parce que le Maroc s'est retiré à cause de ce virus Ebola. Et donc, bon, voilà, donc on est reconnaissant avec la Guinée parce qu'ils ont sauvé l'épreuve. Mais bon, quand même, je sais pas, il doit y avoir quand même des sanctions exemplaires. Bon, je vois que le Maroc s'est fait complètement atomiser par... Ils sont interdits les deux prochaines CAN. Ils ont des amendes énormes en justice. Ils demandent quasiment plus de 8 millions d'euros de dédommagement. Bon, moi, je veux bien.
Ouais, surtout qu'à la base, ce qui avait été demandé contre le Maroc, c'était encore plus fort, puisqu'ils avaient demandé à ce que l'équipe nationale du Maroc soit exclue de toute compétition.
Et fasse des travaux forcés.
Non, de toute compétition internationale jusqu'en 2022. Toutes les équipes du Maroc et que tous les clubs marocains soient exclus de toutes les compétitions de la CAF jusqu'à
tu as raison, Patrick, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures.
Ouais, non, mais c'est dommage parce que bon, le football africain, bon, c'est vraiment un football magnifique. Il y a des joueurs merveilleux. Quand tu vois ce Yaya Touré, bon, il marque un but en demi-finale. Bon, c'est hallucinant. Bon, on voit des joueurs, mais il n'y a pas que lui. Même au Ghana, au Cameroun, bon, il y a voilà, même en Côte d'Ivoire, il y a des joueurs sensationnels qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe. Et puis il y a tout autour des dirigeants, et puis alors ne parlons pas de la fédération de la CAF. De la CAF, voilà, c'est des bandits. Il y a beaucoup de corruption. Voilà, c'est dommage, je pense, au football africain, parce que ça le tire vers le bas, alors que sur le terrain, il y a des joueurs qui sont magnifiques, et voilà, on se pose souvent la question, pourquoi en Coupe du Monde, les pays africains marchent pas, mais je pense que c'est tout cet entourage, et au plus haut niveau des dirigeants qui tirent vers le bas, et voilà, ça fait que le football africain ne veut pas s'exprimer au niveau qui devrait être le sien.
Très bien. Tu avais les images des incidents, Luc ?
Oui, oui, j'ai vu le match.
Terrible.
Quand tu vois, ce week-end en Égypte, 22 morts avant le match, quoi. Voilà, bon.
Là où il y avait eu des morts déjà.
Alors on sait très bien que ça dépasse le cadre du sport. Bon, là, voilà, il y a tout un contexte géopolitique dans ces pays. Bon, c'est compliqué. Mais bon, voilà, juste en match de foot, il y a 22 personnes qui meurent.
C'est
désolant, quoi.
Là, en l'occurrence, c'était pas vraiment un contexte géopolitique avec la Guinée équatoriale, qui est un pays relativement paisible.
Non, mais là, je parle de l'Égypte.
Oui. Là, en l'occurrence, moi, j'ai vu les images, effectivement. C'est les supporters ghanéens qui ont été obligés de descendre sur le terrain pour se mettre à l'abri. Voilà. Il y avait des hélicoptères qui passaient. C'était hallucinant. L'arbitre qui a eu l'intelligence, qui avait 8 minutes d'arrêt de jeu, d'en faire jouer 2 pour mettre fin au carnage où il y en avait déjà 3-0.
Allez, on revient au sport au vrai. La France féminine a battu les États-Unis 2-0 dimanche au stade du Moustoir à Lorient, en match préparatoire pour le Mondial 2015 de football féminin qui aura lieu au Canada. Donc, il faut en parler. Les buts français ont été inscrits par Eugénie Le Sommer, 49e, et Jessica Ouahara, 52e. La Ligue 1, rien ne bouge en haut du classement avec des matchs nuls. Il n'y a que Monaco qui perd à Guingamp et qui cède du terrain. Donc au classement, en premier, Lyon 50, Marseille 48 points, Paris 48 points, quatrième, Saint-Etienne 41 points et Monaco un peu décroché maintenant avec 40 points. Un mot, Patrick, sur ce match au sommet, Lyon-Paris, un partout.
On a eu un super match, hein. Moi je me suis régalé. J'ai vu beaucoup d'occasions, c'était vivant, ça partait un peu de tous les côtés. Il y a eu un gardien de Lyon stratosphérique. Sinon, on peut se demander comment Paris peut ne pas gagner ce match avec un Cavani toujours aussi transparent, inexistant devant le but, avec des face-à-face avec le gardien qui rate systématiquement. Il est absolument pas à son niveau. Après, voilà, il y a ce petit sel avec cette décision de faire retirer le pénalty, arrêter.
Justement, toi qui es Marseillais, Patrick, ce pénalty.
Non, mais réglementairement, tu ne peux rien reprocher à l'arbitre, puisque sur les images, c'est très clair, plusieurs joueurs lyonnais, en particulier Bedimo, sont rentrés avant que le pénalty soit tiré. Donc, tu peux rien reprocher à l'arbitre. Par contre, ce que tu peux dire, c'est combien de pénaltys sont accordés dans le même cas de figure, alors qu'ils devraient être eux aussi retirés. C'est là-dessus qu'on peut discuter.
C'est un peu ce que rebondir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit les corners, sur les corners, il se passe des dizaines de choses.
Voilà, alors,
pourquoi ça siffle pas, sur les pénalties, sur les mains. Et au bout d'un moment, c'est un peu chaque arbitre à sa propre vision du
truc,
interprétation. Donc,
est-ce que le match nul est mérité à la fin ?
Absolument pas. Paris doit gagner largement. Franchement, c'est un bombardement. Hein. Anthony Lopez, vraiment, c'est un gardien extraordinaire. Il est en pleine progression. Et voilà, bon, il joue pour le Portugal, mais s'il avait choisi la France, puisqu'il est né en France, il deviendrait vraiment un concurrent sérieux pour être dans les trois meilleurs gardiens français.
Il a fait un très, très, très grand match. Ouais.
Allez, on va aller du côté de l'Espagne avec l'Atlético Madrid, le derby qui gagne 4-0 le Real. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces Galactiques, Patrick ?
Mais ils sont moins Galactiques. Ronaldo, je pense qu'il a fait son plus mauvais match depuis ses peut-être 4 ou 5 dernières années. Donc, sans Ronaldo, quand même, c'est plus tout à fait la même équipe. Et puis, bon, tu parlais de l'Atlético, mais il faut parler de Griezmann. Hein. Si tu regardes le classement des buteurs,
meilleur joueur de janvier,
voilà.
Regarde
le classement des buteurs. Tu as premier Ronaldo, deuxième Messi, troisième Neymar, et puis quatrième Griezmann. Donc, quand tu es quasiment meilleur buteur d'Espagne, derrière trois monstres, trois joueurs hors normes.
Donc, il était premier, déjà avec la Real, voilà, il était troisième l'an dernier.
Les deux premiers sont hors sujet. Bon, Neymar, c'est la future vedette de ces années à venir, à mon avis. Et puis, Griezmann arrive derrière, en plus dans une équipe comme l'Atlético. Moi, je trouve ça, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Et ça va être un des plus grands joueurs français des années à venir, à mon avis.
Et qui a mis en très, très grande difficulté Raphaël Varane, le défenseur de l'équipe de France et du Real.
Ouais.
Avec Pogba et Griezmann, on a deux joueurs, à mon avis, dont on va reparler souvent ces prochaines saisons.
Et Laurent Julien.
Et Jamel Sailly.
Et d'ailleurs, je conseillerais à Paris, au lieu de mettre 50 ou 60 millions sur Cavani, de les mettre sur Pogba et sur Griezmann.
Mais c'est trop tard. Ouais. Ceux de Cavani sont déjà claqués.
Et Pogba, maintenant, il doit en valoir 70 000. Donc, 60 millions.
Même si vaut 80, même si vaut 80 ou 90, s'il était Paris, je les mets sur Pogba.
Ils en veulent plus de 5 millions.
Allez, on parlait du Real Madrid. On va rester avec le Real, mais on va parler basket. Le Real Madrid qui a remporté le Classico du top 16 de l'Euroleague jeudi lors de la 6e journée en giflant Barcelone 97 à 73. Le CSKA Moscou a concédé sa première défaite européenne en 15 matchs face à l'Olympiakos. Céline, toi, tu suis le basket européen, français, la NBA ?
Français et européen. D'accord. Pas NBA.
Pas NBA. Hein. Non. Il y a que Luc et.
Ah, dommage, parce que j'avais, j'avais une question énorme à poser à Céline.
Allez, pose-la quand même.
Non, allez, depuis... je t'autorise à la poser quand même.
Voilà. Non, parce que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a une totale opposition avec, ton, avec, avec Luc. Donc moi, j'estime que Joachim Noah est indispensable à l'équipe de France et j'espère qu'il fera le championnat d'Europe cette année. Et donc Luc me dit, mais non, il a qu'à rester aux États-Unis, il n'a pas envie de venir, et puis de toute façon, on n'a pas besoin de lui. Donc est-ce que tu peux nous départager en toute objectivité?
En toute objectivité, je vais aller du côté de Luc. Je vais aller du côté de Luc.
Je ne suis pas surpris.
Il n'a pas...
Non, prochain match.
Il n'a pas... Il n'assume pas son rôle en équipe de France depuis quelques temps. Vaut mieux se baser sur des joueurs peut-être un peu plus faibles techniquement, mais qui en veulent vraiment pour leur pays plutôt que quelqu'un qui...
Oui, et comme tu ne suis pas l'NBA, tu ne le sais pas, mais il y a des très grands pivots qui sont en train de faire leur trou en NBA. Ouais, je pense à Gobert.
Rudy Gobert.
Il n'y a pas besoin de que ce soit l'NBA pour ne pas les connaître.
Non, mais si tu
connais très bien Rudy Gobert.
Non, mais pour clôturer le sujet, il y a une semaine...
Ouais, il faut Noah quand même.
Non, mais il y a une semaine, Vincent Collet, donc l'entraîneur de l'équipe de France, pour la première fois, c'est la première fois qu'il le dit, il a dit on n'a pas besoin de Joachim Noah.
Oui, mais il l'a dit, on a moins besoin.
C'est la première fois qu'il le dit aussi clairement, parce qu'avant il disait, on veut Noah, bon, mais il n'est pas là, c'est vrai, mais on a remplacé, mais là il a dit, de toute façon, s'il n'est pas là, ben, c'est
qu'est-ce qui s'est passé au dernier championnat? Il n'y avait pas Noah,
il n'y avait pas Noah, il y avait Tony Parker, je crois, il n'y était pas non plus au dernier championnat.
Tu ne parles que handball, Laurent, s'il te plaît.
Merci.
Non, il n'y était pas non plus.
Il sera au prochain ou pas?
Oui, Parker.
Souvent, on a gagné.
C'est les Jeux Olympiques, ça attire tout le monde, donc il y a les Américains,
c'est qualificatif. Ouais. Et d'ailleurs, les championnats d'Europe qui vont se jouer en France, à Lille, au grand stade de foot.
Et à Montpellier,
l'arène. Noah, 18 points, 9 rebonds décisifs lors du match hier soir.
C'est vrai, quand même, j'aimerais le voir jouer quand même. Le revoir jouer, parce qu'il a quand même fait une campagne là-bas en Lituanie où il avait été super et la France avait fait un super championnat.
Ouais, mais après, est-ce qu'il faut. Le problème, c'est que si tu fais venir un joueur comme Noah, ça veut dire que tu vas devoir adapter une équipe autour de ce joueur.
Il peut être remplaçant et motiver les gars, Luc.
Il ne voudra pas être remplaçant en arrivant en NBA.
Voilà, tu ne fais pas venir Joachim Noah.
C'est une défenseur hors norme, fais-moi.
En NBA, il a une défense hors norme.
Il a une défense hors norme.
C'est pas le jeu européen non plus.
Parce qu'il va falloir qu'il se réadapte.
C'est le quoi, championnat d'Europe ou du monde?
Championnat d'Europe.
C'est qualificatif pour les JO.
Par contre, c'est quand même fou d'avoir ce choix-là en équipe de France, d'avoir autant de joueurs de talent. Ça faisait longtemps en basket qu'on n'avait pas eu pléthore. On a toujours eu un très très bon 5 majeur en France. Mais là, c'est vrai que c'est hallucinant.
C'est hallucinant. Et puis, il y en a qui se sont au championnat du monde qui se sont révélés. Hein. Le petit meneur là qui remplace.
Thomas Hurtel.
Hurtel qui remplace.
Evan Fournier
qui est parti en Espagne.
Gobert. Rudy Gobert, là, le pivot. Qui joue à NBA à Utah.
C'est lui qui est parti en Espagne là, qui joue soit à Barcelone.
Oui, Edwin Jackson.
Enfin, il rentre contre l'Espagne, il enchaîne 2-3 points.
Et Evan Fournier, qui est quasiment titulaire pour sa première année en NBA.
Voilà,
il y a
2-3 points, c'est les Batum.
Si en rentrant comme ça du banc à froid.
Deux paniers à 3 points.
Est-ce que tu sais combien Luc a marqué de paniers à 3 points?
Alors, oui,
il
l'a dit.
À l'entraînement, il en a mis 2. Il y a 3 ans.
Sur 127.
Des bonnes stats. Et demi. Parce qu'il y a celui du demi du terrain.
Allez, notre spécialiste hand, Laurent. Alors, selon nos confrères de l'équipe, les frères Karabatic pourraient rejouer ensemble dès la saison prochaine. Ils seraient en contact avancé avec le Paris Saint-Germain. Ou Noka Sedurazucic, l'ancien mentor de Nicolas Kiel, est pressenti pour succéder à Philippe Gardan au poste d'entraîneur
au handball club de Fleury-Mérogis.
Non, mais ça serait très bien. Je ne suis pas plus fan de ça.
Paris en c'est mais... comme en foot. Hein. Ils achètent tout le monde.
Ça serait bien que
ça serait bien que les frères Karabatic jouent pour la France. C'est évident que tous les joueurs français restent en France. Mais par contre, si tout le monde joue pour le PSG...
C'est moins bien.
C'est moins bien, je trouve.
C'est sûr que l'OM handball.
Non, mais ça me parlait de ça. S'il n'y a qu'une équipe, ça va pas être rigolo, quoi.
Fait 3 ans que le PSG a construit une équipe qu'on va dire aussi galactique que celle du Real Madrid. C'est pas pour autant qu'ils ont été champions l'année dernière et qu'ils raflent tout sur leur passage. Ça veut dire que comme le PSG en foot cette saison. C'est pas nécessairement parce qu'on dépense des millions et qu'on achète des joueurs qu'on gagne tout.
Non, mais tu te moques du handball à Marseille. Et c'est vrai qu'actuellement, tu as raison. Mais
il y a
une vingtaine d'années, Tapie avait décidé de faire une grosse équipe de handball, un peu comme Calafi
avait
décidé. Et donc, voilà. Et donc, Marseille avait acheté tous les meilleurs joueurs français, en particulier Jackson Richardson. Ils ont gagné une Coupe d'Europe. Donc, tu vois, Paris n'a rien inventé. Ils ne font que recopier ce qu'ont fait d'autres clubs, en particulier Marseille.
Paris sera toujours...
Recopiera
souvent Marseille.
Déjà. Non, mais il faisait ça pour blanchir l'argent de l'OM au foot, le club de hand.
Oui, mais peu importe, mais en tout cas, il y a eu des résultats.
Allez, rugby, rapidement, tournoi destination. La France gagne l'Écosse 15-8. C'était un match.
Mais rapidement.
Pas vraiment rassurant.
Il faut en parler rapidement parce que là.
Parce qu'on a plus de temps là.
Le rugby, ça devient grave, quoi.
Moi, je peux vous le dire rapidement, c'était chiant.
Ouais, mais ça devient grave, il n'y a plus. Enfin, moi, je sais pas, si on se contente de ça.
Il n'y a pas eu de jeu.
Si on se contente de ça, vraiment, c'est affligeant pour ce sport qui veut concurrencer le football à tous les niveaux, au niveau des salaires, au niveau des médias, au niveau du public. Bon, voilà, c'est pas en présentant des trucs comme ça que ça pourra concurrencer le football. Hein.
Allez, Laurent.
Merci, Ludo. En fait, certes, le match n'était pas beau, mais il y a quand même eu la victoire. Tandis que l'année dernière, il y avait, c'était pas beau et il y avait la défaite.
Ouais, mais si tu perds contre l'Écosse chez toi, tu t'en rends
compte. Oui, mais après l'Écosse, enfin, excusez-moi.
Céline, tu es notre invitée à toi, la parole.
Merci. L'Écosse a quand même à déployer un jeu différent de ce qu'elle était capable de déployer il y a quelques temps.
Le meilleur joueur du match, c'était le numéro 15, l'arrière écossais.
L'arrière, il a eu.
Qui était flamboyant.
Il avait des appuis de feu.
Oui, flamboyant.
En même temps, si je peux me permettre, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une doménéquisation de l'équipe de France de rugby?
Absolument, Luc.
Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire.
On pourrait reprendre le débat de la semaine dernière avec le Qatar. Quand je vois Rory Cocotte avec l'équipe de France, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est pas choquant.
On en a déjà parlé.
Non, alors.
Il y a des joueurs français formés en France.
Qui?
Ils sont bidons.
Qui?
Mais écoute, j'y travaille cette semaine.
Qui?
Morgan Parra, il est bidon. Tius Bord, il est blessé.
Bidon, quand même pas.
Il est blessé.
Tius Bord est blessé. Non, mais après.
Machenot, c'est pas ça.
En pilier, parce que bon, moi, on part de
Cocotte. Il lance les débats, il sait même pas de quoi il parle. On a dit handball, Laurent.
Mais en pilier, on a personne. Si on fait pas venir Antonio, voilà, il y a pas de relève et je suis très inquiet.
Il y a pas de relève, mais
je suis très inquiet parce qu'on a rappelé Vincent Debatty pour le prochain match. Vincent Debatty qui a 33 ans, qui a pas dû jouer en équipe de France depuis 2 ans.
Qui est même pas titulaire à Clermont.
C'est comme être Coco.
Il y a plus phénomène aggravant, il est belge.
C'est une génération un peu moyenne, mais il faut faire avec. Je veux dire, avant qu'il y ait Zizou en équipe de France, on avait Vincent Guérin qui était meneur de jeu, quoi.
Non, mais j'essaye de me mettre à la place de tous les grands anciens qui ont joué ces matchs de tournoi des 5 nations à l'époque, mais bon, ils ont dans un petit doigt de pied, ils ont l'équivalent de maestrie qu'on porte au nu et qui pour moi est quelconque de tous ces gars. Quand tu vois les joueurs qui ont joué en équipe de France, et quand tu vois maintenant les féminines, c'est Gonzalez qui est l'entraîneur de l'équipe de féminine, qui a été un talonneur, mais en plus quand il joue en équipe de France, il était contesté parce que il y avait meilleur que lui. Et, bon, c'est vrai, on pouvait l'entendre, mais maintenant, mais Gonzalez, mais ça serait un surhomme, mais il serait titulaire, il jouerait tous les matchs, mais alors parce que voilà, on n'a plus personne.
Après, je te rappelle qu'on a porté au nu pour quelqu'un qui est probablement le meilleur avant de qui a été en équipe de France, un des meilleurs, c'était Abdel Benazi, et qui était marocain, donc voilà, les naturels.
Et d'ailleurs, le meilleur joueur de l'équipe de France sur ce match, c'est Leroux, le troisième ligne, qui est sud-africain.
Allez, on va profiter que Céline soit là pour parler mode, ce maillot rouge.
Mode, moi, c'est clair.
Ce maillot rouge, Céline.
Ah, c'est très très moche.
Tu trouves ça moche?
Ah, c'est l'Espagne. Ça m'a perturbé tout le match, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à suivre le match par cette couleur.
C'est marketing, c'est marketing.
Oui, c'est marketing, mais est-ce que vous aimez ou pas? J'ai vu que
le rouge en lui-même était le rouge.
Ça m'a pas choqué.
Mais moi, c'est l'habitude, quoi.
Selon un sondage de l'équipe, il y a plus de 55% des votants qui disent ne pas être d'accord avec ce maillot rouge par rapport à l'éthique française.
Alors, là aussi, le maillot rouge, c'est pas une nouveauté. Parce qu'à une certaine époque, dans les années 60, le deuxième maillot de l'équipe de France de foot, c'était le rouge.
Ouais, moi je pas aimé, mais bon, après, c'est pour moi,
dans le drapeau, il y a bleu, blanc, rouge.
Il y a que Jean-Luc Mélenchon qui a apprécié, je crois.
Moi, j'ai bien aimé ce maillot rouge.
Moi, c'est bleu,
je trouve agressif.
Oui, mais on se sert jamais du rouge ou du drapeau, donc là, c'est...
On l'a sur les chaussettes.
Allez,
c'est vrai.
Avant-dernière info historique, Gasquet gagne un tournoi, le tournoi ATP Sud de France, c'est en 8 minutes. Parce que son adversaire a la grippe.
Est-ce que c'est alors, la seule façon que Richard Gasquet a pour de gagner?
D'habitude, c'est lui qui se blesse. Alors, pour une fois que c'est l'autre.
Il y a des ampoules au même.
Alors, seulement 57 finales ATP ne sont pas arrivées à leur terme depuis le début de l'ère professionnelle en 1968. Essentiellement, donc, en raison de blessures ou de maladies d'un joueur. Et c'est arrivé qu'une seule fois en Grand Chelem, à l'Open d'Australie. Messieurs, madame, vous savez, c'était qui contre qui, cette...
Et pas Sampras, et pas Sampras dans le coup.
C'était quelle année, par contre?
Rafter, je ne dis rien. Patrick Rafter?
Je ne dis rien. Vous savez pas?
Non, aucune idée.
Allez, moi non plus, je sais pas. On passe à la suite. Allez, mais on cherchera, on vous le dira à la prochaine émission.
Non, mais en tennis, ce que tu peux citer, c'est le formidable travail de Mauresmo, qui est entraîneur de Murray. Murray, quand même, qui est allé jusqu'à la finale de l'Open d'Australie. Bon, il perd en finale contre Djokovic. Et puis là, cette semaine, parce qu'elle entraîne l'équipe de France féminine, l'équivalent de la Coupe Davis qui s'appelle la Fed Cup. Mmh. Bon, le samedi, tu perds 2-0. Et donc, elle change complètement l'équipe. Elle fait rentrer donc une remplaçante. Tu gagnes les deux simples suivants et tu gagnes le double. Et tu gagnes 3-2 contre l'Italie qui a gagné la Fed Cup deux ou trois fois sur les 4 ou 5 dernières années. Et donc voilà, moi je pense que Mauresmo, tu parlais de Gasquet, mais il faudrait que Gasquet prenne Mauresmo comme coach. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien.
Luc, ouais, juste un petit clin d'œil à la Flèche Floracoise, le club de cyclistes de Florac, qui a enregistré l'arrivée d'une belle recrue. En l'occurrence, c'est Sébastien Chavanel, le coureur professionnel de l'équipe FDJ, mmh. qui a signé une licence chez Thibaut Boutin, le club de Thibaut Boutin. Alors, il va pas courir sous les couleurs de la Flèche Floracoise puisqu'il est cycliste professionnel et qu'il peut pas courir de course amateur, mais c'est quand même un joli coup et un bon petit coup de
pub. S'il court pas pour eux,
t'es obligé d'avoir
marketing.
Non, marketing encore. Est-ce qu'il aurait maillot rouge?
T'es obligé d'avoir de signer dans un club pour pouvoir pratiquer le cyclisme, en l'occurrence. Son employeur, c'est la Française des Jeux, et il sera sous les couleurs de la Flèche Floracoise.
Bravo. Je parlais de rugby avec l'équipe de France, j'ai oublié de donner cette info en Pro D2 avec Perpignan qui gagne le Biarritz Olympique 48-15. Voilà, c'est à noter, on parle pas beaucoup de Pro D2. On finit ce magazine en parlant des mondiaux de Beaver Creek. C'était toi qui étais le spécialiste, il me semble, Patrick. Super combiné, Hirscher en or, Penturo déçoit, le skieur français qui faisait partie des favoris, se classe 5e. Qu'est-ce qui s'est passé, Patrick?
On est passé à travers parce que c'était quasiment une des courses où on était assuré au minimum d'un podium et même de la victoire finale parce qu'on avait Penturo, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait deux ou trois coureurs français, enfin skieurs français qui étaient bien placés pour emporter cette course. Et puis il y a eu faillite dès la descente quasiment. Toute chance de perdu. Donc voilà, Penturo, il veut tout faire, du slalom à la descente, il se disperse, il est rentré dans un business avec une boisson énergétique dont il y a une canette là, pas loin. Et donc, il a changé, voilà, il donne des ailes, il a changé un peu de dimension depuis quelques années. Il se professionnalise à l'extrême. Je sais pas, je pense qu'il faut qu'il retrouve un peu de fraîcheur pour se libérer, même si à la Coupe du Monde, il est dans les 5 premiers, donc c'est quand même super. Mais il lui manque un peu ses résultats,
cela
ses
dit,
victoires.
C'est leur gagne-pain, la pub.
Non, mais c'est vrai, c'est pas une critique, hein, c'est pas une critique.
Et un dernier mot sur ces mondiaux, j'ai pas trop suivi.
On a une médaille, troisième place, un super G.
Il y a quand même eu une super belle gamelle.
Mais c'est pas fini.
Très impressionnante.
Hein. C'est pas fini. Hein.
Très grosse chute, je sais plus.
En saut de ski.
Non, descente.
Un gars de la République tchèque.
Il a passé la ligne d'arrivée sur la tête.
La descente du combiné. Ouais.
C'est pas facile de passer la ligne d'arrivée sur la tête.
Et il est ressorti avec des toutes petites contusions alors qu'il était resté au sol pendant.
Et il y a Bode Miller aussi, l'américain légendaire, qui s'est blessé, qui s'est fait une énorme. Voilà, au mollet, une énorme blessure, une énorme taille.
Et comme dirait Luc, mes dépensements.
Mes dépensements.
Allez, voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve lundi prochain. Nouvel Instant Sport. On continue à décrypter l'actualité lausérienne, nationale, internationale également. On finit par un mot sur le golf. Laurent, qu'est-ce qui s'est passé en golf?
Tous au green le week-end prochain.
Allez, tous au green. Ciao tout le monde.
Ciao.
À bientôt.
Allez, bye.
Au revoir. Leslie John au couloir numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, supermarket. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Vous t'as dit apéro?
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro ?
Allez, Louis !
Allez, mon petit bonhomme !